Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de 48FM pour une nouvelle visite radiophonique avec Nelly Lafont, animatrice de l'architecture et du patrimoine au Pays d'Art d'Histoire Mandelotte en Gévaudan. Bonjour Nelly.
Bonjour.
Et nous avons aujourd'hui Alexandre Monceau, guide conférencier à l'Office de tourisme Mande-Cœur de Lozère. Salut Alexandre.
Salut.
Alors Nelly, on va aller où aujourd'hui ?
Alors, on avait annoncé la dernière fois qu'on allait rester un peu proche de là où on était. On a changé de destination, on reste dans la vallée du Lot, mais on va prendre un peu de hauteur pour profiter du beau temps. Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entraigue.
Nelly Lafont.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire Mandelotte en Gévaudan et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Lozère.
Bon, on a fait un petit peu de route, à peine 5 minutes à la sortie de Mande. Nelly, on est où ?
On est à Balsièges, enfin on est sur la commune de Balsièges, à Changefège. Aujourd'hui, on a pris un peu de hauteur pour profiter de ce beau temps. Et donc, on va visiter ce hameau Cossenard de la commune de Balsièges, qui est souvent présenté, cette commune, comme une porte sur le Val d'Aunès et sur Mande. Alors, c'est une commune qui compte aujourd'hui un peu plus de 550 habitants et qui s'étend sur plusieurs écarts et hameaux, dont Changefège, où nous nous trouvons aujourd'hui. Nous allons donc pas visiter, pour changer un peu, un site historique, mais un cos avec ses vestiges, son architecture et sa végétation caractéristique.
On est sur le cos ?
Oui, effectivement, on est sur un petit plateau calcaire dans une boucle du Lot. On est exposé plein sud, à l'ouest de Mande, à l'est de Barjac. Donc on est juste au-dessus du village de Balsièges par le nord. Et c'est un vrai balcon sur la ville. Hein. Donc malgré le fait qu'on soit sur un des causses les plus au nord de Mande, ce petit causse de Changefèze, il présente vraiment les caractéristiques qu'on retrouve sur les grands causses. Donc de larges plateaux calcaires, aride, traversée par des drailles qui témoignent d'un agropastoralisme ancien existant. Une architecture de pierres sèches en calcaire, un habitat regroupé, témoignant là encore d'une activité agricole ancienne.
Et aussi une végétation typique sur laquelle nous reviendrons au cours de la visite.
Oui, alors effectivement, on a une très belle vue sur Mande, sur sa cathédrale. Et on est très bien exposé, c'est très agréable, surtout à l'heure où on enregistre là avec ce beau soleil.
Oui, alors c'est vrai que Changefèche est un hameau en pleine expansion, justement parce qu'il bénéficie de ses nombreux avantages, une bonne exposition. Il est situé à 5 km de Mande, un cadre relativement préservé, Cossenard. Donc voilà, on l'a vu en arrivant, hein, il y a beaucoup de lotissements qui se développent au pourtour hein, du hameau originel de Changefège, donc des lotissements plus ou moins heureux, mais on a quand même au centre encore ce village qui est relativement bien préservé, un hameau plutôt regroupé de quelques dizaines de fermes et maisons, dont une conserve encore une charpente du 18e siècle, c'est une chose assez rare. Donc une architecture soignée et cossenarde où on va retrouver ce qu'on a déjà évoqué dans plusieurs de nos visites, notamment celle sur les villages morts ou celle au Salel, où on a déjà vu les caractéristiques de cette architecture d'Écosse, avec des murs très présents, des ouvertures rares et modestes, et des bâtiments qui mêlent donc les fonctions d'habitat et agricole, du moins pour les plus anciennes. On va donc retrouver des fermes cossenardes, des bâtiments facilement reconnaissables. Souvent, toute la maison est en pierre, du fait du manque de bois sur l'Écosse, on l'avait déjà évoqué. Elles se positionnent, ces maisons, souvent adossées à la pente. Ainsi, plus bas se trouvent les moutons dans la bergerie. Et du côté haut, on va retrouver la grange, précédée sur l'extérieur par l'aire de battage, reconnaissable à ses grandes dalles de pierre au sol. L'habitation est située généralement à l'étage ou entre les deux et on y accède souvent par un escalier extérieur.
Donc à côté de tout ce que tu viens de nous décrire, on retrouve, comme souvent dans les villages, des éléments de vie de commune. Je pense bien sûr aux fours à pain et autres, Alexandre.
Ouais, donc le four à pain, il est juste là, à côté de nous. Hein. Donc, à Changefèche, c'est un four sectionnel, c'est-à-dire que tous les propriétaires du hameau ont une part du four à pain sur l'entretien. Alors, c'était essentiel pour, bien sûr, le hameau. Donc, on est sur quelque chose d'ancien qui a été restauré régulièrement et qui servait donc à produire le pain pour tout le village. On n'avait pas de boulanger. Donc on fait souvent le pain, c'est une fois semaine, hein, sauf l'hiver, où on va faire une cuisson beaucoup plus pour beaucoup plus longtemps, notamment autour des 2 mois. Donc il faut imaginer, à la fin, le pain, on le coupe à la hachette. Donc ça donne une idée des conditions. Pourquoi est-ce qu'on cuit si peu souvent? C'est aussi pour économiser le bois. On va le voir, on est sur un cause qui était largement défriché pour l'élevage du mouton, et donc on a des réserves de bois assez limitées. Juste à côté, tu as le fer à doux, hein, donc ce métier à ferrer les bœufs qui permettait de travailler les champs. Donc le bœuf, il s'abîme les sabots lorsqu'il laboure le champ, et il faut lui poser un fer, une espèce de semelle, et donc on utilise ces poteaux là de pierre qui permettent d'attacher les sangles sous le bœuf, parce que, alors, contrairement au cheval, lui, le bœuf, il tient pas sur 3 pattes. Le cheval, il arrive à tenir tout seul sur ses 3 pattes, une jambe levée pour qu'on lui pose le sabot, ce qui n'est pas du tout le cas du bœuf. Et puis, un petit peu plus haut, on l'a vu en passant, on avait aussi une citerne. Et puis, il y avait des citernes privées, parce que, comme beaucoup de villages sur les côtes, il n'y a pas de rivière en haut, donc l'accès à l'eau, elle est compliquée, elle est difficile. On a une petite fontaine un peu plus bas, mais il faut descendre à pied. C'était compliqué. C'était un travail général réservé aux femmes et aux enfants. Imaginez 5-10 litres d'eau à remonter sur un chemin qui est assez pentu, sur 500 mètres. C'était assez pénible. Donc on a aussi sur chaque maison un petit système de puits ou de citernes pour récupérer l'eau.
Je vois aussi qu'il y a des charpentes et des toitures à la Philibert. C'est rare sur un cos?
Alors oui, on en a vu deux très beaux exemples à l'entrée du village. Alors oui, c'est rare sur l'Écosse. Pourquoi? Parce que le manque de bois, mais par contre, on est sur un cos, mais aussi dans la vallée du Lot. Donc on a ici la jonction de ces deux architectures assez spécifiques du secteur et qui témoignent toutes les deux du passé agricole de ce petit hameau. On a besoin d'espace de stockage, donc on va utiliser, parce qu'on a du bois, notamment du peuplier, la charpente dite à la Philibert de l'Orme. Et on va aussi avoir ces principes de construction de la ferme Cossenarde, avec en rez-de-chaussée la bergerie, à l'étage l'habitation ou le stockage pour profiter de la chaleur des bêtes.
Et en parlant de patrimoine de proximité, on est descendu un peu en amont du village, côté est. Côté sud-est, et donc il y a un patrimoine particulier ici, une croix avec un bénitier. On l'a déjà vu, je crois, Nelly, lors de nos visites.
Et oui, on l'avait déjà vu lors de notre visite autour des clochers de Tourmente. Si tu te souviens, Ludo, on l'avait vu à La Fage. On avait une très belle croix avec un bénitier. Eh bien, ici aussi, c'est le même principe. La différence, c'est qu'on a une croix en fonte sur un socle, donc en calcaire, dans lequel est creusé un bénitier. Alors aujourd'hui, cette croix est posée sur un socle beaucoup plus récent qui permet de la surélever. Donc, une fois de plus, croix de chemin qui marque le chemin ancienne draille, hein, qui descend depuis le hameau de Changefèche et qui permettait certainement de pouvoir bénir lors de processions ou alors de bénir les cercueils pour les amener jusqu'à Balsièges certainement où sont enterrés pendant longtemps les habitants de Changefèche.
Et juste un peu plus bas, Alexandre, il y a la fontaine.
Oui, là, c'est ça. Il y a un captage, il y a une source qui a été maçonnée il y a déjà fort longtemps, je pense, et où les gens ont allé chercher l'eau. Donc là, il faut descendre vraiment. Là, tu vois, c'est raide. On descend jusqu'en bas. Là, ça, il y a encore bien 200 mètres de descente assez raide. Et puis le chemin là, part aussi de ce côté-là sur l'ermitage de Chanchaouzou, hein, donc un lieu de pèlerinage là aussi qui est juste au-dessus de Balsièges. Donc forcément, voilà, cette croix, elle est à un endroit important et stratégique dans la vie des habitants du village.
On marche un peu, on va découvrir la végétation du lieu.
Allez, c'est parti.
Alors on a marché un peu, de toute façon la végétation est collée à ce centre-bourg. On a l'impression que c'est un petit air méditerranéen, hein, Nelly.
Oui, effectivement, on va retrouver ici des espèces plutôt méridionales comme l'érable de Montpellier.
Oui, alors tu en as un très joli juste là. C'est une espèce qui est très facile à reconnaître. Il y en a beaucoup sur le cause de Changefèche. Ce qui est assez rare en Lozère, c'est qu'en général, on va en avoir un petit peu dispersé. La vallée du Lot, c'est vraiment la limite, on va dire, septentrionale. On n'en a pas beaucoup plus au nord de naturel de ces érables de Montpellier. La grande particularité, c'est qu'il a une feuille trilobée. Tiens, j'en prends une. Hop. Donc l'érable, d'habitude, il en a 5. Là, il n'y en a que 3. Donc c'est moyen facile de le reconnaître. Ça peut être assez grand. Nous, en Lozère, les plus grands, ils vont faire dans les 10 mètres, ce qui n'est pas immense. Parce que bon, les conditions climatiques, elles sont pas méditerranienne justement, donc il s'adapte en venant se poser comme là, hein, on est sur une ancienne dry, donc contre le muret de pierre sèche, donc dans le calcaire complètement, et ce muret ça va lui ramener de la chaleur aussi, hein. Donc le soir, la nuit, la pierre elle va rediffuser de la chaleur, ce qui permet à l'érable de prospérer. On en trouve pas mal dans les gorges du Tarn aussi, hein, de ces arbres de Montpellier.
Peut-être on peut rajouter un mot sur le reste de la végétation. Donc effectivement, depuis le four à pain, le centre du village, on a fait 200-300 mètres à pied. On a pris donc un petit sentier balisé et on est sur cette ancienne dry. Et là, les paysages sont beaucoup plus ouverts. On retrouve ce paysage caractéristique d'Écosse avec de grands plateaux arides, secs, séparés par des murets en pierre sèche, des clapasses. On a devant nous aussi les restes d'une caselle en ruine. Donc voilà, un paysage vraiment typique cossenard.
C'est quoi une caselle en pierre?
T'es sérieux là?
Eh ouais, je sais pas ce que c'est. C'est
alors une caselle ou une chazelle, ça dépend comment on le prononce. C'est une cabane de berger. Donc quand les bergers venaient sur l'Écosse garder les troupeaux, eh bien souvent ils pouvaient s'abriter dans des cabanes, des caselles construites en pierre sèche. Donc c'est vraiment caractéristique d'Écosse, mais pas que de Lozère, hein, évidemment.
Alors là, on est en train de poursuivre dans ce petit chemin, c'est agréable. Alexandre, c'est un lieu qui est beaucoup visité, notamment pour les randonnées.
Oui, tout à fait. Ouais. C'est un endroit, Changefèche, où il y a plein de petits sentiers. C'est agréable, surtout là, comme en ce moment, on va dire l'entre-saison, printemps et automne. Pourquoi? Parce qu'on est bien exposé, ce qu'on disait tout à l'heure. Aujourd'hui, on a peu de vent, donc c'est très agréable. Et puis l'été, les petits chemins comme ça, donc les petites drails, là, comme on a les arbres tout le long, ça amène un peu de fraîcheur quand même. Donc on est assez bien sur ce cause là de Changefèche.
Allez, on va pas aller jusqu'au bout, mais au bout, il y a un départ pour des vols libres, non? C'est pourquoi?
Oui, c'est ça. Il y a une piste de décollage au fond là, juste au-dessus de Barjac. Donc là, il y a une autre superbe vue. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à faire le tour du Causse. C'est pas immense, ça se fait bien. Et là, on a donc juste au-dessus de Barjac un ordre de décollage pour le parapente. I like looking out at the clouds from the window on a train. I like pork chops, but it's got staying in when it rains. Beanbags, colored flags, dogs wearing baby clothes. Singing songs in the shower and forgetting all the words. And it's okay if you don't wanna play. I can wait for another day. I can wait for another day. I like oversized Mai Tai singers with skinny ties. The smell of fresh paint and when your hair gets in your eyes. I like films about penguins and anything that starts with Y. Yodeling yak
like time yelling out at the sky. And it's okay if you don't wanna play. I can wait for another day. I can wait for another day. Breakfast and staying late in a bar. Weird dreams, trampolines, girls playing bass guitar. I like falling asleep in the back of other people's car. Moon boots and fruit juice banging on a water jar. If this is the end, my friend, I will ask you again. Sing along if you can. I will ask you again. Sing along if you can. I will ask you again. Sing along if you can. Ba da ba 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 ba.
Donc on a un peu marché, on arrive au dolmen de la Tuile. Donc, est-ce qu'on sait depuis combien de temps ce secteur est habité ?
On sait que le territoire est fréquenté dès le néolithique, avec la présence du dolmen de la Tuile notamment, où nous nous trouvons, qui est un des plus importants dolmens du département.
Alex, tu peux nous rappeler ce qu'est un dolmen ?
Alors le dolmen, c'est une tombe qui reçoit successivement les morts de la population des alentours, alors, sans toutefois recevoir tous les sujets. On est un peu limité en termes de connaissances précises hein, sur ces installations. Visiblement, il y a un petit nombre de privilégiés qui peut accéder à ces sépultures. Donc, elles datent des époques du néolithique final, donc 3500 à 2200 avant Jésus-Christ. Et elles ont été réutilisées par la suite jusqu'au début du Moyen-Âge. On a des éléments de mobilier qui ont été retrouvés qui le prouvent. Donc, c'est avant tout une table monumentale. Dol mène la table de pierre, la pierre couchée, hein, mène, c'est du breton, hein, mène, qui s'oppose au menhir, la pierre dressée. Il est composé donc d'une chambre funéraire, constituée de supports verticaux, surmontée de cette dalle horizontale, qui à l'origine alors, était surmontée encore par-dessus, hein, soit d'un cairn, soit d'un tumulus en cailloux et en terre.
Donc le dolmen a donc un double rôle, le rôle sépulcral aussi, comme l'a dit le rôle sépulcral avant tout, comme l'a dit Alex, mais aussi plus secondaire, un rôle de marqueur du territoire. Hein, on le voit par sa volumétrie, conforté par sa situation, il était le signe prépondérant du groupe constructeur. La Lozère compte aujourd'hui autour de 350 dolmens et autant de menhirs recensés. À Changefège, 8 dolmens ont été repérés sur le Causse. Ils témoignent de la spécificité lozérienne, à savoir les dolmens sur un terrain calcaire et les menhirs dans le granit.
Les morts y étaient enterrés ?
Ouais, alors les morts sont introduits dans la tombe par la porte qui est devant. Et on vient les déposer avec des objets personnels, des parures, de l'outillage, des armes, de la poterie. Alors parfois on a même des indices qui plaident pour des offrandes collectives et non individuelles, donc toute la communauté se regroupe. Ce sont ces objets qui nous permettent de dater les périodes d'occupation et d'utilisation des dolmens. Le nombre de défunts par contre, lui, il est très compliqué à dénombrer à cause des remaniements, du rangement et des rituels qui peuvent comporter le prélèvement des os, notamment les crânes. Mais alors on a aussi eu des pillages et puis les chercheurs de trésors et autres curieux du 19e qui ont pas mal fréquenté ces sites. Donc on a parfois perdu des données.
Alors donc ici on n'a rien retrouvé à l'intérieur de ce dolmen.
Si, alors ce dolmen il a été fouillé et publié en 1857 puis en 1867. À cette époque il est désigné sous le nom de Baume del Gigant, donc la grotte, la baume du géant en fait, ou aussi Teolo della Giganto, désolé pour l'occitan approximatif. Donc l'intérêt qu'il suscite et la qualité de sa préservation font qu'il va être protégé au titre des monuments historiques dès 1887, ce qui est assez rare, assez exceptionnel, hein, puisque la première liste de monuments historiques date de 1840, donc ça veut dire qu'il a été classé très très tôt pour sa préservation. On peut donner quelques chiffres. Donc la dalle de couverture mesure 4,65 m sur 3,40 m sur 60 cm de hauteur. Et malheureusement, elle est cassée en deux parties à cause des actions du temps et de l'eau, notamment le gel, des gels que le COS va subir au gré des saisons. Donc cette dalle masque la chambre funéraire dont a parlé Alexandre tout à l'heure. Et on le voit, cette chambre n'a plus sa dalle de fond du chevet, hein, c'est-à-dire qu'elle était fermée des deux côtés. Mais toute la partie orientale est encore visible. Enfin, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'ici, on est en présence d'un dolmen à accès coudé, c'est-à-dire avec un couloir qui mène en fait à la chambre funéraire. Donc c'est un dolmen qui est relativement complexe. On a plusieurs types de dolmens, dont celui à accès coudé. Donc pour revenir aux fouilles qui ont eu lieu, leur résultat est assez mal connu. Comme souvent, on y aurait retrouvé une pointe de lance en silex à dos poli et bord denté, deux vases en terre, une lame en silex et des perles en os, tout ça avant des fouilles de 1900. Un dépôt est enregistré au musée Ignon Fabre à l'époque pour quelques annelés en métal cuivreux. On sait que la petite fille du sénateur Roussel donne au musée un vase qui pourrait être ces fameux vases trouvés en terre, mais rien ne nous permet de l'affirmer pour l'instant.
Ce dolmen, on y rentrait pareil en s'abaissant ou l'entrée était plus basse et ça s'est recouvert par la terre ?
Alors, sans doute qu'on y rentrait quand même à un niveau un petit peu en dessous, parce que là, à part rentrer à quatre pattes, ça va être compliqué. Donc, s'il faut amener le corps du défunt, là, on va avoir un problème. Non, tout bêtement, on a donc ce qu'on disait tout à l'heure, le tumulus ou le cairn, hein, qui recouvrait le domaine. Aujourd'hui, il ne le recouvre plus, donc il est dispersé tout autour. Hein. C'est pour ça, tu vois, on a de la terre, des cailloux absolument partout autour de nous. Et donc, forcément, ça a un petit peu comblé l'entrée qui, normalement, dans certains dolmens, doit pouvoir permettre de rentrer largement debout. Hein. On a même des couloirs comme ça, des chaussées qui font plus de 2 mètres de hauteur. Donc, vraiment des très, très gros monuments.
Il était fermé des deux côtés ou il y avait des ouvertures comme actuellement ?
Alors voilà, donc aujourd'hui il est traversant dans la chambre, alors que comme le disait Nelly, normalement au fond on devrait avoir une pierre de fermeture, une pierre de chevet. Et puis voilà, là on voit encore couché par contre hein, à l'oblique, cette dalle, cette grande dalle qu'on a à l'oblique qui était en fait droite et qui est l'entrée coudée. Donc on avait une espèce de sas en extérieur et puis après on arrivait vraiment à la chambre funéraire.
Alors, on va poursuivre notre découverte de Changefèche, mais cette fois-ci autour d'un patrimoine vivant. On va partir à la recherche d'un arbre remarquable, un chêne pubescent, qui a été inventorié en 2016 et qui marque, on va le voir si on le trouve, une fois de plus, le passé agricole de la commune. On expliquera pourquoi.
Voilà, il me semble qu'Alexandre sait où il est.
En théorie du moins, après, grâce aux publications du Pays d'Arrêt d'Histoire, vous pouvez le retrouver. Il y a les coordonnées GPS, donc on va les utiliser, on va voir si on y arrive.
Allez, on a continué, on a un peu marché à peu près à un kilomètre hein, environ de là où on était. Et on a trouvé, les coordonnées GPS étaient bonnes, merci au Pays d'Arrêt d'Histoire. Et donc Nelly, ça y est, on est
devant ce beau chêne pubescent. Alors, ce qui est très, très beau ici, c'est que ce chêne est en plein milieu d'un champ. Et on peut là, et il a été plusieurs fois émondé. On le voit hein, par rapport à la forme qu'il a. Et donc, ce chêne a certainement profité puisqu'il a très bien poussé, de l'engrais naturel des brebis qui sont souvent venues pâtre sûrement sous ses branches pour pousser de manière très rapide et belle.
On va peut-être rappeler ce qu'est l'émondage. Donc c'est une taille qui consiste à supprimer les branches latérales et puis parfois on va essayer de couper la cime de l'arbre pour favoriser en fait la repousse au milieu, donc ce qu'on appelle les rejets, les branches secondaires et puis le feuillage. Donc ça va faire une forme de grosse boule au niveau du tronc de l'arbre et ça se distingue de l'élagage par le fait qu'on va récolter et utiliser ces bois taillés notamment pour le chauffage. Donc on travaille ça dans certains bocages de façon très régulière. On parle même de têtards, on en a du côté de Sainte-Hélène, j'en ai vu des chênes têtards qu'on travaille régulièrement et qui permettent de fournir ce bois de chauffage et d'avoir un beau feuillage bien touffu pour mettre les bêtes à l'ombre, parce que l'été sur les causses ça cogne un peu quand même.
Les bêtes et le berger. Alors peut-être chêne pubescent, il est couramment aussi appelé chêne blanc, en opposition avec le chêne vert, à cause d'un duvet blanc qu'il a sur ses feuilles. Donc c'est un arbre qui est relativement courant en Europe du Sud et au Proche-Orient, qui apprécie les sols calcaires. Et on le retrouve jusque dans le nord de la France via la vallée du Rhône. Donc pas rare de le trouver ici, mais on est devant un spécimen de dimension relativement honorable et dans un site magnifique.
Et d'après les anciens du village, ce serait même le plus vieil arbre du Causse. Donc un arbre on ne peut plus intéressant. Donc il fait 3,25 m de circonférence pour une hauteur totale de 14 mètres, ce qui en fait déjà un très bel arbre. Vraiment impressionnant là devant nous.
Est-ce qu'on a une actualité sur ce bourg de Changefège ?
Alors, pas de réelle actualité, si ce n'est l'actualisation, la mise à jour, la reprise de tous les chemins de randonnée. On l'a déjà évoqué au long de cette visite, tous les chemins de randonnée donc sur la communauté de communes Cœur de Lozère. Donc, Balsièges et Changefège vont en bénéficier. Donc, c'est vraiment l'occasion de venir découvrir ce Causse avec donc tout ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire ce village à l'architecture cossonarde, ce dolmen qui est quand même un des rares classés au titre des monuments historiques du département, un patrimoine remarquable aussi vivant avec cet arbre remarquable inventorié il y a quelques années, et puis ces paysages cossonards typiques. Autre actualité aussi sur la commune, il y aura des fossiles trouvés sur le Causse de Changefège à l'époque où la mer recouvrait la Lozère, donc des fossiles qui seront exposés dans l'exposition permanente du futur musée du Gévaudan.
On a une anecdote pour Brillant Société ?
Évidemment. Alors, est-ce que tu sais, Ludo, quel est le lien entre Adidas et Changefège ?
Alors là, vraiment, je vois pas.
Et pourtant, on l'a vu juste avant. Est-ce que tu as remarqué la forme des feuilles de l'érable de Montpellier ?
Oui.
Trilobée. C'est quoi le logo d'Adidas ?
C'est des feuilles trilobées.
Voilà, c'est une feuille d'érable de Montpellier. Exactement. Donc, on retrouve cet arbre ici. Voilà, c'est l'arbre qui a inspiré le logo d'Adidas.
Ok, merci, on apprend des choses dans cette émission, c'est super. La visite que nous devions faire cette fois-ci est reportée la prochaine fois ?
C'est ça, on va retrouver Caroline pour la visite radiophonique de décembre. Et cette fois-ci, on espère bien vous amener sur les traces de Napoléon. Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entraigue.
Nelly Lafont.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire Mande et Lot en Gévaudan, et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Lozère.